Voilà, bonsoir à tous et toutes. Meilleurs vœux, bien sûr, pour cette nouvelle année que le Seigneur nous donne pour découvrir son amour et le répandre. Je vois que vous êtes plus nombreux que je ne croyais. En général, l'interruption de Noël fait qu'il y a une chute dans les effectifs, mais vous êtes fidèles. Voilà, je prends donc le chapitre 13 de Saint Jean pour commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Voilà, Seigneur, nous sommes dans ce temps de l'Épiphanie. Nous contemplons ton humilité dans la crèche qui n'a pas empêché les mages de reconnaître ta grandeur. Tu nous donnes maintenant de voir jusqu'où va ton humilité, puisque tu nous laves les pieds. Fais que notre cœur soit vraiment conquis par cet amour que tu nous manifestes, et qu'il puisse déborder de notre part dans le service de nos frères, de nos sœurs, et dans la miséricorde. Amen. Je vais commencer par des questions administratives. Excusez-moi, j'éteins d'abord le téléphone, c'est plus prudent. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent passer un examen ? Bon, Je suis très heureux de votre réponse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'une attestation d'avoir suivi le cours ici? Personne, c'est tous pour votre plaisir. Très bien. Voilà. Alors, j'avais promis donc qu'il y aurait un syllabus à la fin du cours. Donc il y a un syllabus écrit sur lequel je me base pour donner cours. Et la secrétaire a ajouté tout ce que j'avais dit oralement. Donc le syllabus est un peu gonflé comme ça. Mais moi, je n'ai pas le temps de relire le syllabus avant de vous le fournir. Donc, pour ceux qui l'acquerront, il n'est à diffuser à personne d'autre qu'à vous. Donc c'est un privilège pour ceux qui ont suivi le cours de pouvoir y revenir si vous voulez, mais il ne faut pas en faire le diffuser. Il y aura une version plus correcte à la fin de l'année académique, puisque je redonne le cours pour les étudiants réguliers au deuxième semestre. Mais donc vous, puisque je vous l'ai promis, vous y avez droit. Alors, le syllabus fera à peu près 200 pages avec tous ces ajouts. Donc, c'est en caractère pas trop petit. Avant, je faisais petit pour ceux qui partaient à l'étranger, mais maintenant, avec l'âge, je préfère les lettres un peu plus grandes. Voilà. Donc, 200 pages, ça fait que le syllabus coûtera entre 20 et 25 euros reliés. Alors, je voudrais savoir combien d'entre vous souhaite acheter ce syllabus, puisque je ferai le nombre demandé. Voilà, levez la main tous ceux qui voudraient se procurer ce syllabus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bon, 25. Alors, si vous connaissez des absents qui le souhaitent, mais qui m'envoient un mail avant mardi pour me le faire savoir, quoi. Merci. Voilà, nous continuons donc dans le Nouveau Testament. Nous avons passé beaucoup de temps avec Saint Matthieu, comme celui qui a le plus élaboré, si on peut dire, le rapport de Jésus à la loi, à la loi morale. Mais avec Saint Jean, nous faisons un pas de plus, puisque Saint Jean écrit après les trois autres évangélistes et à partir d'une réflexion plus approfondie sur le travail de l'Esprit Saint dans l'Église, qui permet de dire davantage qui est Jésus que dans les tout premiers temps, et qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Donc, l'animal, dans les quatre animaux de l'Apocalypse qui servent à représenter les évangélistes, c'est l'aigle pour Saint Jean, parce qu'il voit les choses de beaucoup plus haut que les autres, il a un regard beaucoup plus perçant. Alors, le père Beauchamp disait que Saint Marc insiste tout le temps pour qu'on ne dise pas qui est Jésus, quoi. C'est le secret messianique, hein. Jésus insiste, ne dites pas que je suis le Messie, etc. Tandis que Saint Jean, lui, il a vendu la mèche. Il dit tout de suite, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Il n'y a pas l'énigme, il n'y a pas le parcours énigmatique qu'il y a chez Marc. Pour arriver à cette connaissance, et les deux parcours doivent se faire. Et c'est pour dire que Jean va être beaucoup plus explicite sur le rôle et l'action de Jésus après sa mort, donc par sa résurrection. Alors, il y a cinq sections, comme vous voyez sur la feuille de route, là, pour la morale de Saint Jean. Et c'est vrai que s'il fallait résumer tout en une seule phrase, ce serait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec une insistance sur ce comme. Alors, je vais parler essentiellement des chapitres donc 13 à 17, donc le discours après la scène. Mais je tiens à mentionner que les chapitres 1 à 12 de Saint Jean sont tout aussi importants pour la compréhension de la morale chrétienne. Les chapitres 1 à 12 sont appelés le livre des signes, où Jésus fait des signes à Cana en nettoyant le temple, en faisant des guérisons. Et il interpelle tout le temps ses apôtres sur la portée de ces signes, pour qu'on n'attende pas de lui qu'il fasse des miracles, mais pour qu'on reconnaisse qui il est. Et donc les 12 premiers chapitres de Saint Jean sont un appel essentiel à la foi, à reconnaître qui est Jésus et à y adhérer. Et donc, on pourrait dire que si l'évangile de Jean se divise en deux parties, la première partie c'est la foi et la deuxième partie c'est l'amour. Mais on ne peut jamais les dissocier. J'ai écouté une belle homélie cette semaine d'un des professeurs de l'IET ici à la messe qui partait de la première épître de Saint Jean qu'on lit ces jours-ci, notamment le chapitre 4 que je vous demandais de lire pour cette séance. Et il associait la foi et l'amour de cette façon-ci. Il dit, quand nous disons que Dieu est amour, d'abord c'est une révélation, il faut dire, extrêmement nouvelle. Le peuple juif ne s'attendait pas à ce qu'on dise ça de son Dieu, qu'on ose résumer ce qu'est Dieu en disant Dieu est amour. Il y avait une nouveauté. Mais il dit, pour oser le croire et le croire encore aujourd'hui, il faut regarder Jésus sur la croix. Il n'y a pas de foi dans l'amour de Dieu sans la foi dans le Christ. Et c'est une belle manière de montrer comment les deux sont liés. Alors, nous avions vu dans l'évangile de Matthieu que Jésus ne fait pas que donner des commandements et des préceptes, il veut mettre ses disciples à sa suite et les attacher à sa personne. Vous vous rappelez qu'au début du sermon sur la montagne, avant ce sermon, il leur demande, enfin, il s'approche de lui. Et puis plus loin dans l'évangile, Jésus dit « Venez à moi, mettez-vous à mon école, mettez-vous à mon école ». Donc ça veut dire « Soyez mes disciples et pas seulement faites ce que je vous dis ».« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur ». C'est à sa suite et sous le même joug que lui que l'existence morale doit être vécue. À plusieurs, en particulier au jeune homme riche, il dit « Suis-moi ». Mais la personne de Jésus est mise d'une manière encore plus explicite au fondement de la vie morale dans l'évangile de Jean. Pour cet évangile, toute la vie morale se résume dans le commandement de l'amour. Il s'agit d'aimer comme Jésus, l'unique, a aimé. Comme. Ce comme tous le reconnaissent n'exprime pas seulement une imitation des exemples de Jésus, bien que celle-ci ait aussi son importance. Mais il signifie que l'amour dont Jésus a aimé ses disciples devient en eux une réalité intime. Celle-ci leur permet de s'aimer les uns les autres de l'amour même dont Jésus les a aimés en premier. Ce comme exprime une communication de l'amour de Jésus aux siens qui s'effectue moyennant la foi des disciples, c'est-à-dire leur accueil de l'amour dont ils sont aimés et leur engagement dans un amour de réciprocité pour celui qui les a aimés et choisis. Donc, accueillir l'amour et lui répondre par l'amour. C'est ce que Jésus exprime par sa demande en Jean 15, 9, « Demeurez dans mon amour. » Demeurez. La présence intérieure de Jésus dans les siens, jusqu'à ne plus former avec eux qu'un seul être animé par un même amour, est manifesté par l'allégorie de la vigne. Donc la traduction dans les Bibles actuelles, respecte ce que dit Jésus. Il ne dit pas « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Il dit « Je suis la vigne, donc je suis vous tous, vous êtes les sarments, moi je suis plus puisque je suis celui par où la sève monte dans les branches, mais je suis la vigne ». Donc un seul être animé d'un même amour. Cette allégorie de la vigne précède, dans le discours après la scène, immédiatement l'enseignement sur la charité. Et c'est là que Jésus enseigne de façon très claire à quel point c'est vraiment la vie divine qui est communiquée aux chrétiens en communiquant cet amour, puisque cet amour de Jésus pour nous est un amour que lui-même reçoit. Me laisser aimer par Jésus, accueillir en moi son amour, de telle sorte que je pourrai aimer les autres de cet amour même, c'est aussi accueillir en moi l'amour même du Père. C'est vraiment une étape supplémentaire, pas seulement reconnaître que Jésus est un prophète et un ami qui mérite qu'on soit son disciple, mais que c'est l'amour même du Créateur qui est dans cet enseignant, ce prophète, qui est le Fils du Père. Jésus le dit lui-même, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et puis seulement il dit, « Demeurez dans mon amour. » Donc Jean 15, 9. En aimant les siens, Jésus imite entre guillemets, l'amour du Père qu'il reçoit en lui. Et en s'aimant les uns les autres, les disciples imitent entre guillemets, l'amour de Jésus qu'ils reçoivent également en eux. La vie de charité est ainsi une intégration dans la vie d'amour de la Trinité. La Trinité telle qu'elle s'est manifestée dans l'histoire, mais aussi telle qu'elle est en elle-même de toute éternité. C'est ce qui permet à Saint Pierre de dire dans son épître que nous sommes appelés à vraiment participer à la nature de Dieu, à nous laisser diviniser. Ce thème est moins fréquent dans la théologie de l'Occident, mais il est le mot quasi essentiel dans la théologie de l'Orient. L'homme est fait pour être divinisé. En Occident, on parle plutôt de la sanctification de l'homme. Mais c'est quand même la même réalité, c'est Dieu qui se communique lui-même pour que nous devenions pleinement participants de ce qu'il est. Donc quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça vaut la peine de méditer, de contempler la richesse de ce « comme » qui fait que, en nous laissant aimer par Jésus, nous accueillons en nous la source même de l'amour qui nous rend capables d'aimer à notre tour. Alors, l'amour chez Saint Jean est l'amour qui va jusqu'à l'extrême. C'est peut-être à ça que Jésus apparaît vraiment comme unique, c'est que nos amours vont rarement jusqu'à l'extrême. Dans le passage que nous méditons, donc ce discours après la scène, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Le don de sa vie constitue le grand acte d'amour de Jésus pour son Père, d'abord. Il s'avance vers sa passion afin que le monde sache qu'il aime son Père et qu'il agit conformément à sa volonté. C'est en Jean 14, 30. « Il faut que le monde sache que j'aime le Père. » Je crois que j'avais déjà attiré l'attention sur l'étrangeté de cette parole. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Comme si c'était très très important de savoir qui Jésus aime en premier. On pourrait se demander ce que ça a à voir avec la vie de l'humanité, de savoir qui quelqu'un aime. Eh bien, pour Jésus, c'était vraiment tellement important qu'il l'a souligné. Mais cet acte d'amour envers son Père est aussi l'acte suprême de son amour pour les hommes. En commençant le récit de la dernière semaine de Jésus, Jean écrit « avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Cet amour jusqu'à l'extrême arrive à sa plénitude sur la croix. Et quand Jésus dit, en Jean 19, 30, « Tout est achevé », le verbe a la même racine, donc « telos », que ce que nous avons traduit par « extrême », jusqu'à l'extrême ou jusqu'au bout. « Eis telos », donc jusqu'à la fin, de telle sorte qu'il n'y a pas moyen d'exprimer un amour plus grand. Donc Jésus dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous voyons là comment donner sa vie par amour est à la fois un acte d'obéissance au Père et un acte parfaitement libre, parce que Jésus insiste, « Nul ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. » Dans la méditation du tout premier cours là, sur la Trinité de Sonntagsberg, j'avais insisté sur ce libre don que Jésus fait de lui-même, qui fait que on ne peut plus en vouloir à ceux qui le crucifient, puisque s'il est sur la croix, c'est parce qu'il donne sa vie, c'est pas parce que les hommes sont méchants. Même si les deux se conjoignent, Jésus assume cette méchanceté des hommes dans sa capacité de renouveler le monde par son amour. Nul ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père, dit-il en Jean 10, 18, donc le discours du bon berger. Pouvoir de donner, pouvoir de reprendre. Dans le prologue de Saint Jean que nous avons entendu le jour de Noël, il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque fois qu'il est question de ce pouvoir, c'est la présence de l'Esprit-Saint. Par ailleurs, nous sommes tellement impliqués dans l'amour du Père et du Fils que Jésus peut dire « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. » Alors le mot « la reprendre » évidemment manifeste la divinité de Jésus, cette capacité qu'il a d'être ressuscité par le Père et de contribuer à cette résurrection lui-même comme fils de Dieu. Il ne faudrait pas en faire le fait que Jésus donne sa vie et puis la reprend comme si c'était une petite chose, quoi. Il a vraiment connu la mort. Quand il dit « et la reprendre », il y a tout l'espoir de la résurrection qui est dedans, mais ça ne gomme rien de tout ce que sera, de tout ce qu'a été la passion. Il a vraiment connu la mort. Mais aimer comme Jésus a aimé signifie donc que l'acte d'amour de Jésus sur la croix soit la norme de notre agir. Nous avions vu que la loi nouvelle est plus exigeante que l'ancienne. La nouvelle norme de l'agir des hommes, c'est l'acte d'amour de Jésus sur la croix. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donc, 1 de Jean, chapitre 3, verset 16. Et encore cette phrase étonnante, 1 Jean 4, 10, 11. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Mais bien aimé, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Donc on voit le réalisme de Jean pour considérer que ce que Jésus a vécu sur la croix est vraiment la norme des relations entre les disciples. Alors ça apparaît évidemment extrêmement exigeant. C'est pourquoi la première étape, c'est toujours de reconnaître que cette mort sur la croix est une mort pleinement par amour, et par amour pour nous, et qui nous libère de nos péchés. Sinon, exigence, évidemment, est totalement insupportable. Jésus en personne devient donc la norme de notre vie morale tout entière, résumée par Jean comme une vie de charité. Je suis la voie, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Quelle audace, hein, de la part d'un homme de dire « je suis la voie ». Il y en a d'autres qui ont essayé, qui se sont cru la voie pour les autres, hein, mais quelle audace quand même. « Je suis la voie, la vérité, la vie, dit le Seigneur. » Le seul qui ait pu le dire, c'est lui. La voie des volontés divines, la vérité de Dieu et de l'homme, la vie en plénitude, tout cela est maintenant rendu présent dans le moi du Christ Jésus. Pour lui, se faire notre norme intérieure, c'est nous rendre présents en tant que ressuscité son acte d'amour extrême sur la croix. Il faut donc qu'il y ait des lieux où nous accueillons cet amour de Jésus, où il refait, où il rend présent ce qu'il a vécu sur la croix pour nous. Et c'est dans les sacrements que Jésus renouvelle cet acte d'amour de façon particulière pour nous. En particulier dans le sacrement de l'Eucharistie, dont saint Jean nous parle abondamment au chapitre 6. « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voyons comment la cascade du Père vers le Fils, du Fils vers nous, se réalise, mais dans cet acte exceptionnel qu'est la communion eucharistique. Manger sa chair et boire son sang. Au chapitre 13, un autre signe nous est donné que l'Eucharistie, et c'est le lavement des pieds. Celui-ci symbolise ce que Jésus va accomplir dans sa passion, sa mort et sa résurrection, le fait qu'il se donne lui-même. Nous y trouvons également la loi de notre agir. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Les actes du Seigneur, que nous appelons des mystères, les mystères de la vie du Christ, constituent ainsi les lois concrètes de notre action. Pas seulement le lavement des pieds, mais le fait qu'il se penche sur les malades, qu'il rejoint les pécheurs et leur rend une dignité. Donc tous les événements de la vie du Christ sont pour nous des exemples, entre guillemets, et le Seigneur Jésus est le modèle. Mais il est beaucoup plus qu'un modèle qui resterait extérieur. Il est la norme à l'intérieur de nous, de nos actes, grâce à l'Esprit qu'il nous donne. Tout ceci n'est pensable que par le don de l'Esprit-Saint. C'était la seconde section, l'amour jusqu'à l'extrême. Je prends la troisième section, là, le commandement de l'amour. Donc, toute la vie morale se résume dans l'amour. Mais l'amour, aux yeux de Jésus, n'est pas séparable de l'obéissance au commandement. Après avoir dit « demeurez en mon amour », Jésus dit « si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. » Il est question des commandements. Ce pluriel montre que l'évangéliste connaît les multiples commandements de la Torah et les enseignements moraux de Jésus. Tous ces commandements peuvent être ramenés à un seul exprimé au singulier, le commandement de l'amour. Voici quel est mon commandement, au singulier, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12 toujours, et Jean 13, 34. Mais, bien que j'ai déjà abordé la question, j'y reviens. Comment Jésus peut-il parler d'un commandement de l'amour. Est-ce que ce n'est pas une contradiction par rapport à la conception que nous nous faisons habituellement de l'amour? On a envie de dire que l'amour ne se commande pas. L'amour est considéré comme une espèce de réaction spontanée, purement subjective, de la liberté. C'est un point évidemment extrêmement important par rapport à la culture contemporaine, de reconnaître en quoi Jésus a raison de parler d'un commandement de l'amour. Donc, parce que c'est vrai que pour les jeunes surtout, l'amour c'est quelque chose de spontané, et d'ailleurs, qui impose des exigences. On a des exigences quand on est dans l'amitié, tant qu'on sent cet amour vivant. Mais si on ne le sent plus, on abandonne. Donc ici, Jésus est en train de révéler quelque chose de très important. Donc l'amour, pour nos contemporains, ne dépend que de la liberté. Il serait en quelque sorte créateur de la liberté, même si c'est en réponse à un autre acte, puisque l'amour peut être suscité par la personne et les actions de l'autre. Mais voilà, avec Jésus, nous devons aimer autrui, aussi peu aimable soit-il de notre propre point de vue. Du simple fait que l'autre est homme, femme, appartient à notre humanité, sa réalité s'impose à nous comme digne de respect et d'amour. L'amour dont Jésus parle repose sur l'ordre de la réalité lui-même. Donc, l'amour n'est pas une création subjective de la liberté, mais obéissance de la liberté à la vérité que les autres sont dignes. Les autres sont enfants de Dieu. Les autres ont une valeur en eux-mêmes que mon amour ne leur donne pas, mais qu'il peut reconnaître. C'est pourquoi l'amour s'impose selon la nécessité même de cette vérité. L'autre est un homme. Donc nous voyons comment Jésus parle de l'amour comme quelque chose qui est une acceptation de la création par le Père. Une acceptation de ce que tous ceux à qui il donne la vie, tous les êtres humains à qui il se donne et qui sont à son image et à sa ressemblance, eh bien, méritent, entre guillemets, d'être aimés. Et donc, l'amour n'est pas simplement « si ça me plaît ». C'est là qu'on voit pourquoi l'amour peut être un commandement ancré dans la réalité créatrice de Dieu. Alors, c'est évident que c'est parce que notre liberté dans sa spontanéité blessée n'est plus accordée à cette universalité de l'amour que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il répand son Esprit Saint dans l'humanité. Mais il y a plus loin donc que simplement le fait que l'autre est respectable et que c'est cela qui mérite que je l'aime. Que je l'aime, ça ne veut pas dire que je lui envoie une carte de vœux et que je lui fasse smack-smack quand je le rencontre. Hein. Ça veut dire que je respecte ses droits et je veux être au service de son humanité et de sa croissance. Hein. Si c'est un amour affectif, tant mieux. Mais comme j'ai déjà dit, dans l'Ancien Testament, les exigences de l'amour sont des exigences objectives. Hein. Celui qui a soif, eh bien, je dois lui donner à boire, hein, indépendamment de ses qualités et de sa vie antérieure. Mais plus loin encore, pour Jean, comme nous l'avons lu dans l'épître d'aujourd'hui, Dieu est amour. Donc le fondement de l'obéissance, donc, qui fait que l'amour est un commandement, c'est ce que Dieu est en lui-même. La manifestation de l'amour divin dans l'histoire s'impose avec toute la majesté du réel, dit le père Jean-Marie Hénaud. L'ordre de la réalité implique que l'amour n'a pas sa source en nous, mais en Dieu. Cette phrase étonnante que j'ai déjà lue là, 1 Jean 4,10, « Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. » Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé. C'est lui qui nous a aimés. Donc nous reconnaissons que l'amour a une source. Et nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Pour aimer, nous devons reconnaître la priorité de l'amour divin. Notre acte d'amour, comme notre acte de foi d'ailleurs, implique donc l'obéissance. Mais l'obéissance au sens de la reconnaissance d'une source. Nous devons consentir à l'amour avant d'aimer. Pour Jésus lui-même, son amour est en même temps une obéissance au Père, comme l'atteste l'évangile de Jean. En observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Donc c'est montrer à quel point l'humanité du Fils, dont nous avons contemplé l'apparition comme ça dans la crèche une quinzaine de jours, est une humanité tellement réelle. Il recevait ce qu'il avait à faire et à vivre dans le quotidien de sa vie. Donc la volonté du Père, c'est qu'il y ait un puits et qu'il y ait une Samaritaine, si vous voulez. C'est qu'il y ait des disciples dont l'un des 12 se laisse séduire par Satan et va le trahir. Et en tout cela, Jésus recevait du Père comment aimer et comment aimer le Père et comment aimer ceux que le Père mettait sur son chemin. Donc c'est un amour hyper réaliste. Mais l'amour demeure donc un commandement, et de plus, c'est à l'obéissance que Jésus promet la joie, la sienne comme la nôtre. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est le témoignage des saints et des saintes, c'est que ce qui faisait la joie de leur vie, ça a été d'aimer les pauvres, de se consacrer à l'évangélisation, ou de se consacrer au ministère sacerdotal, comme le curé d'Ars, pour l'amour de Jésus. C'est parce qu'on aime Jésus qu'on y trouve de la joie d'abord. C'est pas parce que c'est immédiatement gratifiant. Comme le curé d'Ars passait 14 heures dans un confessionnal, il faut le faire, quoi. Donc c'est dans la charité que se nouent le bien et la béatitude. Donc la béatitude, c'est la joie, et le bien, c'est le fait qu'on fait le bien. Donc on pourvoit aux besoins de ses frères et de ses sœurs. Et nous avions déjà vu cela chez Matthieu, puisque la morale de Jésus commençait par des béatitudes. Et on sait qu'il y a une joie à vivre la morale. Alors, allons un peu plus loin dans cette reconnaissance que Dieu est la source. C'est la quatrième section, naître d'eau et d'esprit. Donc je vous avais demandé de lire dans les chapitres d'aujourd'hui le chapitre 3 où Jésus parle à Nicodème. Donc Nicodème deviendra pleinement disciple de Jésus à partir de la croix. C'est lui qui ira réclamer le corps de Jésus à Pilate, tout à coup rempli comme ça d'un grand courage. Et à Nicodème, au début de l'évangile, donc Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème a demandé comment cela peut se faire. Et Jésus lui explique qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. En effet, ajoute-t-il, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc, cette promesse d'une naissance nouvelle se réalise à la croix, d'où l'allusion au serpent dans le désert. Donc, le serpent élevé dans le désert montrait au peuple à la fois son péché, puisque c'était le serpent brûlant dont les morsures leur avaient fait prendre conscience qu'il s'était éloigné du Seigneur, et en même temps, en étant élevé et en étant de bronze et en regardant vers lui, on était sauvé. Donc le serpent élevé manifestait la façon dont Dieu veut sauver son peuple du péché. Et en regardant le Christ sur la croix, nous voyons notre péché exposé, comment est-ce que l'humanité arrive à faire souffrir un innocent comme elle l'a fait là, et comme elle renouvelle cet acte de méchanceté tous les jours. Et en même temps, en contemplant Jésus sur la croix, nous recevons le pardon par lequel Dieu assume notre péché pour pouvoir nous rendre la vie. Donc le don de la vie éternelle va se réaliser à la croix, auprès du Fils de l'homme élevé. Nous voyons le disciple qui est simplement et complètement désigné par la périphrase « le disciple que Jésus aimait ». Donc, comme si le disciple se définissait par l'accueil de l'amour du Christ. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. Il dit « le disciple que Jésus aimait ». Donc, ce qui définit son identité, c'est de se savoir aimé par Jésus. Ce disciple est aussi l'auteur de l'Évangile. Donc, nous pouvons l'appeler par son nom, Jean. Mais il est surtout le type même de tout disciple. En mourant, Jésus transmet l'Esprit. Je vous dis, l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose qui est répandu avec un spray comme ça sur toute l'histoire de l'humanité ou sur toute la planète. Il y en a qui croient trouver l'Esprit comme ça partout. Mais c'est l'Esprit qui est donné par Jésus, par sa mort sur la croix. Il y a un poids à ce don qui est autre chose qu'une réalité qui serait surnaturelle, mais quand même finalement associée à toute la création naturelle, simplement. Lorsque le soldat perce le côté de Jésus, il en sort aussitôt du sang et de l'eau, et ainsi se réalise ce que Jésus avait lui-même annoncé en Jean 7, 37-39. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour rappeler que l'Esprit Saint, c'est vraiment le don que Jésus fait à la croix, on ne peut pas être plus clair. Mais maintenant, sur la croix, Jésus a été glorifié, il est allé jusqu'au bout de l'amour du pécheur, et l'Esprit est donné, et il fait naître Nicodème à la vie de disciple. Il enfante les disciples à la vie même de Dieu et leur permet d'aimer de l'amour même de Dieu. Donc un amour humble, miséricordieux. Et tout de suite, il se passe quelque chose. Ce n'est pas seulement un don personnel que Jésus ferait à Jean, parce que il est dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Et le disciple que Jésus aimait. Ce groupe de disciples constitue l'Église qui à ce moment naît de l'eau et de l'Esprit. Donc ce n'est pas seulement un don individuel et personnel, ce don de l'Esprit, c'est la constitution d'une communauté d'amour réciproque. Et nous reconnaissons la phrase de Jésus en Jean 13, 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tels sont les membres de l'Église et leur vie dans l'Esprit, qui est vie morale de charité. » L'évangéliste le suggère par une dernière indication. Jésus confie le disciple qu'il aimait à sa mère et sa mère au disciple. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, Père Jean-Marie Hainaut lit cet accueil de la mère chez lui comme vraiment l'accueil de la Sion véritable, de la Jérusalem véritable, celle où Dieu habite et où Dieu se donne. Et la mère, c'est-à-dire Sion, est désormais chez le disciple qui n'a d'autre vie que l'amour reçu de Jésus. L'amour de Jésus est lui seul permet de vivre les commandements. Une méditation à approfondir sur comment c'est l'accueil de la mère qui permet aux disciples de vivre les commandements. Pour nous, c'est vrai, c'est l'accueil à la fois de Marie et de ce qu'elle symbolise, qui est l'Église, qui nous fait entrer dans cette vie divine où nous pouvons vivre les commandements. Donc j'en viens à ma cinquième section, là, celle du Père Jean-Marie Hainaut. Naître de Dieu pour aimer. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Jean demeure constamment émerveillé de cette nouvelle qualité d'être, qui est le fruit de la croix. Du sacrifice de Jésus qui livre l'Esprit, naissent les enfants de Dieu. Par leur nouvelle naissance, ils participent à l'être même de Dieu. De cette transformation ontologique, donc c'est l'être même d'une chose qui est transformée, de cette transformation ontologique de l'homme sauvé par le Christ, jaillit une qualité spécifique d'amour. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pour Jean, l'être et l'agir sont liés. Dans son agir, l'homme exerce l'être nouveau qu'il reçoit de Dieu. L'être qu'il reçoit. En aimant, il participe à l'être de Dieu lui-même qui est amour. En note, le Père Jean-Marie nous ajoute, la morale chrétienne est surnaturelle, fort distincte de l'éthique grecque ou romaine ou de toute autre éthique. On voit comment c'est la divinisation de l'homme qui fait qu'il y a une nouvelle forme d'éthique humaine entre nous. La réalité proprement théologale de la charité, quel est Dieu directement pour objet ou les frères, nous est ainsi révélée. La nouvelle naissance s'exprime aussi au plan de l'amour et de tout l'agir moral. Au point que Jean affirme donc en 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché. Cet amour divin manifesté dans l'histoire à travers le Christ, Verbe de Dieu, à travers ses mystères, tous ses actes, et surtout à travers sa mort, est à l'origine d'une communauté d'amour, l'Église. Elle est l'épiphanie de l'amour divin en ce monde. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Nous voyons là comment l'évangélisation du monde par l'Église part de la communauté d'amour qu'elle a réalisée. Selon l'évangile de Jean, il existe donc bien un amour et un agir spécifiquement chrétiens, comme il existe une communauté spécifiquement chrétienne. Cet amour et cet agir proviennent de notre nouvelle naissance, qui est transformation de notre être d'homme en enfant de Dieu. Désormais, notre agir moral naît de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal ne voit pas Dieu. Je reprends une formule qui est proche de ce que saint Augustin dit, même si ce n'est pas littéralement lui, mais dans l'acte bon, tout est de Dieu et tout est de l'homme. Nous comprenons beaucoup mieux à partir de la filiation divine à quel point cela est vrai, parce que l'acte bon est un acte d'amour. Voilà, en ces quelques pages sont résumées la morale de Jean. Il y aurait beaucoup plus à dire sur l'évangile de Jean, mais vous verrez, pour ceux qui prennent le syllabus, dans les notes, il y a des références suffisantes pour approfondir les choses. Je vais commencer maintenant le chapitre sur saint Paul et la loi, parce qu'il est assez complet aussi, et en une heure la semaine prochaine, j'aurai juste le temps de le terminer. Donc j'ai mis sur la feuille de route l'introduction, qui sont les perspectives différentes de saint Paul et de saint Matthieu. C'est intéressant pour mieux comprendre le vocabulaire. Donc, Paul et Matthieu parlent tous les deux de la loi, et la loi embrasse chez tous les deux ce que nous appelons l'Ancien Testament. Je vous ai dit, pour les premiers chrétiens, avant que les évangiles soient écrits, il n'y avait que l'Ancien Testament. Et puis quand on a rassemblé un corps d'écrits qui sont les évangiles et les épîtres et l'Apocalypse, les chrétiens parlaient de deux grandes parties, la loi et le Seigneur. Donc la loi, c'était tout l'Ancien Testament, et le Seigneur, c'était les écrits du Nouveau Testament. Donc la loi, quand Paul et Matthieu en parlent, c'est l'Ancien Testament en tout cas. Mais eux-mêmes vivent et annoncent l'évangile. Mais justement, le mot évangile n'a pas le même sens chez Matthieu et chez Paul. Et à partir de là, le mot loi non plus n'aura pas exactement le même sens ou la même compréhension. Donc, ce que je vous expose ici vient d'un article d'un théologien suisse qui s'appelle Zumstein, Jean Zumstein, qui a donc remarqué que Paul apparaît comme le théologien missionnaire, fondateur de communautés. Il apporte la nouveauté de la foi en Jésus. Paul ne raconte rien de la vie de Jésus. Il dit « Le Christ est mort et ressuscité pour nos péchés » et c'est ça qui change tout. Et quand il le dit aux Juifs, c'est pour leur dire que Jésus est le Messie attendu. Et puis quand trop de Juifs refusent son message, il s'adresse à nos ancêtres, les païens, qui ne connaissaient pas la Torah, qui ne connaissaient pas le Dieu unique. Et il leur annonce la même chose, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour nous mettre en relation avec le Dieu unique, le Créateur, qui est notre Père. Mais donc Paul, il a vécu lui-même un changement radical dans sa vie, on a vu ça pour certains prophètes, il est passé de la violence extrême contre le christianisme à l'adhésion totale au Christ. Et il reproduit ça, si vous voulez, dans son apostolat. Il fait que les gens passent à une vie nouvelle. Tandis que Matthieu, lui, on voit qu'il s'adresse à des communautés déjà constituées, probablement où la présence des chrétiens d'origine juive était plus abondante. Il n'a pas à les faire passer par le même type de nouveauté, il a à les faire durer dans la nouveauté. Ce n'est pas la même préoccupation. L'évangélisateur qui fait la première annonce et puis celui qui doit stabiliser une communauté chrétienne. Et c'est pourquoi chez Matthieu le mot loi aura une autre compréhension que chez Paul. Parce que pour Paul, la loi, c'est ce qu'il a connu, ce dont il était l'apôtre zélé, et au fond, d'une certaine manière, il a renoncé à s'appuyer sur la loi pour trouver son union à Dieu. C'est uniquement en acceptant la miséricorde de Jésus qu'on trouve l'union à Dieu. Donc la loi, elle a un statut un peu de mise à l'écart, si on peut dire. C'est pas assez juste, je serai plus précis plus tard. Mais Matthieu n'a pas du tout la même attitude. Et donc vous voyez sur votre tableau, que signifie le mot évangile chez Paul? Chez Paul, évangile, c'est l'annonce que le Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. C'est même cet acte d'annonce. L'évangile, c'est l'évangélisation pour Paul. C'est ce que lui fait. Il annonce le Christ mort et ressuscité. Il le proclame. Donc, ça n'est pas l'ensemble des éléments de la vie de Jésus. Tandis que chez Matthieu, l'évangile, c'est tous ces enseignements et ces gestes de Jésus. C'est ce que le mot évangile signifie pour nous habituellement. C'est un des quatre évangiles ou les quatre évangiles, ou quand on dit l'évangile, c'est la vie de Jésus depuis sa conception jusqu'à sa résurrection. Alors, le mot loi. Chez saint Paul, nous verrons donc, il y a deux sens, enfin, il y a neuf sens au mot loi chez Paul, mais prenons ici les deux sens essentiels. Donc c'est, premièrement, c'est l'expression sainte et bonne de la volonté de Dieu telle qu'elle est formulée dans la tradition des pères. Donc Paul ne renie jamais que la Torah soit le chemin que Dieu a pris pour se communiquer et que ses ancêtres dans la foi juive ont mis par écrit dans ce qui est la Torah. Mais en même temps, il y a ce deuxième sens pour lui du mot loi, c'est le chemin juif du salut, c'est-à-dire l'obéissance légale par laquelle le croyant s'affirme devant Dieu. C'est en obéissant à la Torah, en appliquant les prescriptions, que l'homme montre sa dignité devant Dieu. Et c'est ça que, bien sûr, dont Paul s'est rendu compte en voyant le martyr d'Étienne et puis en étant touché par le Christ sur le chemin de Damas, qu'il y a quelque chose qui cloche. À partir du Christ, avant le Christ, il n'y a pas de raison d'interpréter la loi comme ce chemin juif du salut par lequel le croyant s'affirme devant Dieu. Mais donc, Paul prend distance, tandis que chez Matthieu, la loi, c'est quoi? C'est tous ces Juifs qui, en adhérant à Jésus comme le Messie et en recevant son esprit, sont capables de vivre la loi telle que Dieu l'avait proposée, si vous voulez. La loi est ce que Jésus en dit. Donc, elle est renouvelée, puisque Jésus est celui qui lui donne un sens nouveau en venant habiter le commandement de l'intérieur et en révélant qu'il est destiné à vivre pleinement la charité. Et donc, la loi est renouvelée, mais elle est ce que Jésus en dit, c'est-à-dire qu'elle est réinterprétée, elle n'est pas mise à l'écart. Elle n'est pas considérée comme un chemin dangereux, si vous voulez. Alors que pour Paul, dans la deuxième interprétation du mot « loi », il y a un danger. Donc la loi, pour Matthieu, la loi est ce que Jésus en dit, la réinterprétant et dégageant ce qu'il juge être l'authentique volonté de Dieu pour l'homme. Donc Jésus, effectivement, comme nous l'avons vu, interprète la loi pour lui donner son sens le plus originel, celui qu'il a en Dieu, ce par quoi Dieu voulait mettre l'homme sur le chemin de l'amour en perfection. Et on voit là deux conceptions, si on peut dire, du Christ. Donc pour Paul, le Christ est surtout le sauveur, celui qui fait passer des ténèbres à la lumière, celui qui fait passer du péché à la vie nouvelle dans l'esprit, tandis que pour Matthieu, le Christ sera aussi l'enseignant, celui qui nous donne une nouvelle loi, ce que Paul ne dit pas, quoi. Pas comme ça. Même si chez Paul, les conseils moraux sont présents dans toutes ses lettres, à la fin de ses lettres. Quand il dit comment vivre de l'esprit, il a des conseils très pratiques sur la famille, sur la relation aux autorités politiques, etc. Et enfin, l'erreur ou le danger concernant la loi, tout au bas du tableau, vous voyez, pour Paul, c'est la loi est la tentation pour l'homme de l'auto-justification, de dire « j'ai tout bien fait comme les commandements prescrivaient, et donc on n'a rien à me reprocher ». Et nous sommes tous, au moins à une étape de notre vie, passés par cette compréhension-là, c'est de faire bien tout ce que papa et maman demandent, qui fait qu'on fait bien, quoi. Il faut du temps, il faut de la réflexion, de l'expérience, pour se rendre compte que l'application des commandements, simplement, n'est pas encore l'amour de l'autre pour l'autre. Et que tant qu'on est préoccupé d'être selon les règles, ben, ça ne veut pas dire que l'autre compte vraiment, même si je suis une dame d'œuvre ou un champion du travail social. Je peux le faire parce que, à travers ça, malgré tout, je me glorifie moi-même d'être un acteur social. Il y a une conversion à faire à un moment. Donc on voit la tentation que Paul a vécue et dans laquelle il était tombé et dont il a été guéri, c'est la tentation de l'auto-justification. Et il trouve que c'est une calamité absolue par rapport à la charité, Paul. Tandis que chez Matthieu, l'erreur concernant la loi, c'est l'interprétation que les pharisiens en donnent. Et qui est une interprétation qui ne remonte pas à l'origine, donc à ce que Dieu veut pour l'homme, pour l'humaniser et le rendre amour, mais qui est une interprétation, finalement, d'homme, et souvent de type légaliste. Voilà. Voilà, donc il est l'heure, j'arrête ici, donc je continuerai le rapport de Paul et de la loi la semaine prochaine, ce sera notre dernier cours, si vous voulez bien encore venir. Donc je reste pour ceux qui auraient des questions jusqu'à 10h moins 5.